Vous écoutez Radio B.
Je m'appelle Jocelyn.
Et moi, Erwan.
Je suis Victor.
Je m'appelle Lola.
Je suis Rachel.
Je m'appelle Mal.
Je m'appelle Laurette.
Radio B.
Les catastrophes naturelles. Par les enfants de l'école Carnot.
Bonjour!
Vous écoutez Radio B.
Nous sommes les enfants de l'école Carnot.
Aujourd'hui, nous allons parler des catastrophes naturelles.
Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle?
Comment peut-on les prévenir?
Pour y répondre, nous avons interviewé Sandrine Anquetin,
directrice de recherche au CNRS.
Elle est spécialisée dans le cycle de l'eau.
On commence cette émission avec un quiz.
Les catastrophes naturelles. Par les enfants de l'école Carnot.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio B.
Bienvenue dans notre quiz sur les catastrophes naturelles.
Je suis Laurette.
Et moi, Rachel.
Moi, c'est Lola.
Première question.
Durant l'Antiquité, la ville de Pompéi a été ensevelie suite à l'éruption d'un volcan, le Vésuve.
En quelle année cet événement s'est-il produit? A. En 62 avant Jésus-Christ. B. En 62 après Jésus-Christ. C. En 79 après Jésus-Christ. Ou D. En 132 après Jésus-Christ.
C'est la réponse C. En 79 après Jésus-Christ. Cette ville avait également subi un séisme d'amplitude 6 plusieurs années avant, en 62 après Jésus-Christ.
Deuxième question.
Une catastrophe naturelle a lieu en 1755 à Lisbonne, au Portugal. Elle a détruit près de 85% des bâtiments et a touché d'autres villes en Europe ou en Afrique. Quelle était cette catastrophe?
A. Un séisme. B. Un tsunami. C. Une tempête. Ou D. Des incendies.
L'événement à l'origine de cette catastrophe est un séisme de magnitude 9. Celui-ci a ensuite provoqué un tsunami. Les parties de la ville non touchées par le séisme ont-elles subi des incendies pendant 5 jours?
Troisième question.
En 2005, le sud des États-Unis a été frappé par un ouragan. Quel est le nom de cet ouragan?
A. Katrina. B. Katarina. C. Alicia. Ou D. Wilma.
C'est la réponse A, Katrina, avec un K. Il fait partie des ouragans les plus forts qu'a connus les États-Unis. Ses vents ont pu atteindre 280 km.
À présent, il est temps de laisser le micro à Victor et Erwan.
Bonjour, je suis Erwan.
Et moi, Victor.
Depuis quelques minutes, on entend beaucoup parler des ouragans.
Mais connaissez-vous la différence entre un cyclone, un ouragan et un typhon?
C'est le même événement climatique. C'est une zone où la pression de l'atmosphère est faible. Cette atmosphère se met à tourner sur elle-même. Cela donne naissance à un vent violent.
On utilise un mot différent en fonction de l'endroit où l'événement se produit. On parle de cyclone dans l'océan Indien et dans le sud de l'océan Pacifique. Pour le typhon, c'est dans le nord-ouest de l'océan Pacifique. Et pour les ouragans, c'est dans le nord de l'océan Atlantique et dans le nord-est de l'océan Pacifique.
En 2011, le Japon était frappé par un tsunami. Connaissez-vous la hauteur des plus hautes vagues de ce tsunami? 10 mètres? 30 mètres? 50 mètres? Ou 100 mètres?
Les chiffres varient selon les sources. On estime aujourd'hui que les plus hautes vagues de ce tsunami ont dépassé les 30 mètres. C'est beaucoup, mais savez-vous que les vagues des plus hauts tsunamis peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres?
À présent, c'est au tour de Maël et Jocelyn de nous poser des questions.
Bonjour, moi c'est Maël.
Et moi c'est Jocelyn.
Voici notre question, vrai ou faux, le nombre de catastrophes naturelles a plus que doublé en 20 ans.
C'est vrai, en 2021, on dénombre plus de 400 catastrophes naturelles à travers le monde.
Deuxième question.
Au cours des dernières années, Quelle a été la catastrophe naturelle la plus fréquente?
C'est les inondations. Cependant, l'ONU estime aujourd'hui que la catastrophe naturelle la plus fréquente de la prochaine décennie sera les vagues de chaleur.
Notre question est terminée.
On espère qu'il vous a plu.
À bientôt.
Les catastrophes naturelles. Par les enfants de l'école Carnot.
Au fait, Erwan, c'est quoi une catastrophe naturelle?
C'est un phénomène grave causé par la nature.
Comme les ouragans, les séismes ou les éruptions volcaniques.
Ça veut dire qu'elles ne sont pas causées par l'homme directement.
Mais l'homme peut tout de même avoir un impact sur ces catastrophes.
Ces activités dérèglent l'écosystème.
Et les rendent plus fréquentes.
Mais on peut aussi prévenir ces catastrophes.
Grâce à des recherches et des mesures, il est possible de les anticiper.
On appelle tout de suite Sandrine Anquetin.
Elle va nous expliquer tout ça.
Les catastrophes naturelles. Par les enfants de l'école Carnot.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio B.
Sandrine Anquetin est en ligne avec nous.
Bonjour Sandrine.
Bonjour Victor et bonjour à tous tes amis qui sont autour de toi.
Pour commencer, pouvez-vous vous présenter?
Oui, donc bonjour à tous. Donc je suis chercheur au Centre national de recherche scientifique, donc le CNRS, qui est un organisme national qui travaille sur la recherche scientifique au sens général. Et mon expertise plus spécifiquement est sur l'hydroclimatologie. Alors c'est un mot un petit peu compliqué, mais globalement je m'intéresse au devenir de l'eau dans le système climatique, c'est-à-dire comment l'eau est transportée dans l'atmosphère, comment elle tombe sur la Terre et comment elle ruisselle sur la Terre.
Vous travaillez pour le CNRS, pour un GREC ou encore un IGE. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que sont ces structures?
Oui, alors c'est plein d'acronymes qui sont toujours très compliqués à comprendre quand on ne connaît pas. Donc le CNRS, donc c'est le Centre National de Recherche Scientifique, c'est un organisme national qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc nous sommes des fonctionnaires. Et le CNRS organise ses recherches à travers des laboratoires de recherche qui sont donc reconnus par le CNRS. Et parmi les nombreux laboratoires du CNRS, il y a l'IGE, donc l'Institut des géosciences de l'environnement, qui est un laboratoire du CNRS, mais également de l'Université Grenoble-Alpes, également de l'Institut de recherche pour le développement, et plus récemment, qui est également un laboratoire de l'INRAE, donc l'Institut national de recherche en agronomie et environnement. Donc, tout ça est bien compliqué, mais globalement, toutes les personnes qui sont dans ce laboratoire, qui ont un poste permanent, ce sont des fonctionnaires d'État, et qui relève du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et maintenant un peu du ministère de l'Agriculture. Et le GREC, alors le GREC, eh ben, ce n'est pas les gens qui habitent en Grèce. Le GREC, ça veut dire le Groupement Régional d'Experts sur le Climat. Donc c'est une organisation un petit peu autosaisie, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont souhaité se mettre ensemble pour faire communiquer ce qu'on appelle les sphères, donc les gens qui travaillent dans la recherche ou dans l'enseignement supérieur, et puis la société en général, autour des questions climatiques. Parce qu'en fait, on se rend compte que pour tous les enjeux climatiques, eh ben, il faut rapprocher les gens pour, d'une part, informer, communiquer, transférer, mais également travailler ensemble, réfléchir ensemble aux meilleures solutions à trouver pour pouvoir limiter le réchauffement planétaire et trouver des solutions également pour s'adapter aux dérèglements climatiques.
Sur quoi portent vos recherches?
Alors, mes recherches, elles portent sur donc le devenir de l'eau dans le système, dans le climat. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les risques d'inondation, par exemple, dans le sud-est de la France. Les événements cévenols, je ne sais pas si c'est des mots que vous avez entendus. Donc, ce sont c'est suite à des précipitations extrêmement intenses sur des sols qui ont du mal à absorber l'eau, d'une part parce que soit ils sont secs, soit ils sont, soit la pluie est tellement forte que l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer, que l'eau ruisselle et forme des inondations extrêmement violentes et surtout extrêmement rapides, ce qui met en difficulté, voire en danger, les populations qui sont sujettes à ces événements. Donc on a beaucoup travaillé sur, avec Météo France, bien entendu, sur l'origine de ces événements, ce qu'on appelait les événements cévenols, sur la formation des nuages, sur la formation des précipitations, et puis également sur la formation de ces crues que l'on appelle des crues éclairs. Éclair parce que c'est extrêmement rapide et sur aussi des petites surfaces. Et ce sont des phénomènes qui malheureusement apportent des dommages d'une part, mais surtout tuent chaque année beaucoup de gens.
Quelles catastrophes naturelles peut-on anticiper grâce à vos recherches ?
Ben, essentiellement des catastrophes qui sont liées à la présence de l'eau ou au contraire à l'absence de l'eau. Donc, soit les inondations, soit les sécheresses.
Quels instruments de mesure utilise-t-on ?
Alors, dans les sciences que je mène, il y a plusieurs choses. Donc, par exemple, pour mesurer la pluie qui tombe, il y a deux types d'instruments de mesure. Il y a des instruments de mesure, ce qu'on appelle directs, c'est-à-dire que c'est comme un pluviomètre, par exemple. Donc, c'est comme une petite bassine qui va récolter l'eau de pluie, et donc c'est vraiment la mesure automatique, c'est la mesure réelle de la pluie. Mais ça, c'est assez compliqué de mettre ce type d'instrument un peu partout, parce que ça demande de la maintenance, et il n'y a pas des pluviomètres partout, et puis en plus, ce qui est compliqué, c'est que la pluie, à quelques kilomètres près, elle peut changer de manière très très significative. Vous avez très probablement déjà vécu des moments où il y avait des orages très locaux sur votre ville, et puis juste à côté de votre ville où il n'a pas du tout plu, quoi. Donc il y a des phénomènes météorologiques qui sont très difficiles à mesurer uniquement avec des instruments, par exemple comme les pluviomètres ou voilà. Donc, il y a eu des développements d'instruments de mesure, des mesures indirectes, c'est-à-dire que ce n'est pas un instrument qui va mesurer directement la pluie, mais qui va mesurer un signal qui informe de la pluie. Et par exemple, ce sont les radars. Donc, peut-être que vous regardez la météo à la télé et vous avez des images radars qui indique, c'est juste le signal qui est déformé par la présence de la pluie ou de la neige et qui donne une indication de la pluie. Voilà, donc il y a les radars. Et puis ensuite, il y a ça qui informe sur la façon dont la pluie est organisée dans le ciel. Et ensuite, il y a d'autres instruments qu'on utilise, par exemple, pour mesurer la pluie. C'est des instruments qui permettent de regarder la taille des gouttes de la pluie. Donc ça, c'est un peu bizarre peut-être, mais en fait, c'est nécessaire à connaître la taille des gouttes des pluies ou la forme des gouttes de pluie, parce que justement, pour pouvoir traduire le signal du radar, donc le signal de l'onde, en un signal de pluie, il faut avoir une information sur la forme des gouttes de pluie. Et enfin, on utilise également des données qui viennent des satellites. Donc là, c'est pareil, ce sont des mesures indirectes et c'est un peu comme le radar. Ce sont des signaux qui sont perturbés par la présence des nuages ou de la pluie, etc. et qui informent de la présence de ces derniers sur la Terre. Et ce qui est intéressant dans les satellites, c'est que ça informe à l'échelle pour beaucoup d'entre eux à l'échelle globale, donc à l'échelle de toute la Terre. Donc ça, c'est juste, je vous ai donné juste des instruments pour mesurer la pluie. Après, on en utilise beaucoup d'autres.
Qu'est-ce qu'un aléa hydroclimatique ?
Alors, aléa, ça veut dire, c'est un événement, c'est quelque chose qui va impacter la société. D'accord ? Donc, aléa, ça, c'est un événement, c'est un début de catastrophe, ça peut être un début de catastrophe. Ça devient une catastrophe si derrière, il y a effectivement une société qui est pénalisée, qui est vulnérable à cet aléa. Hydroclimatique, donc dans le mot hydroclimatique, hydro ça veut dire eau et climatique ça veut dire climat. Donc un aléa hydroclimatique, c'est une catastrophe, c'est un événement qui est lié à l'eau dans le système climatique. Donc ce sont les sécheresses, parce que c'est pas d'eau ou plus d'eau, ce sont les inondations et ça peut être également les vagues de chaleur. Parce que voilà, c'est aussi lié au cycle de l'eau.
Comment réagissez-vous lorsque vous découvrez une catastrophe naturelle ?
Eh bien d'abord, comme tout le monde, je suis toujours interpellée, préoccupée par les éventuels dégâts. Bon, les dégâts encore, c'est quelque chose, mais quand il y a des victimes, quoi, quand il y a des personnes qui décèdent. Donc c'est toujours c'est toujours interpellant, c'est toujours triste. Et on s'interroge sur justement qu'est-ce que l'on peut faire pour essayer d'atténuer tout ça. Dans certaines régions, en fait, on sait où sont parfois les dysfonctionnements, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses que l'on connaît, mais qui ont du mal à se traduire en actions concrètes sur l'aménagement des territoires, par exemple, pour des raisons politiques, économiques, etc. Donc, des fois, nous, en tant que scientifiques, ça nous laisse pas indifférents parce que il y a peut-être des victimes qui auraient pu être épargnées si les bons choix avaient été faits, parce qu'il y avait des choses qui étaient connues, quoi. Voilà. Et puis ensuite, il y a des choses qui malheureusement se déclenchent, et notamment dans un contexte de dérèglement climatique, il y a une accélération du processus des effets du dérèglement climatique sur ces phénomènes naturels. Et ça, il y a des choses qu'on avait anticipées, mais pas forcément à cette vitesse, quoi. Donc, c'est pour ça que la communauté des scientifiques interpelle toute la sphère politique et économique en disant qu'il y a urgence, quoi. Mais ensuite, nous, on n'a pas trop les rênes du pays, quoi.
Quel est l'impact des activités de l'homme sur le nombre de catastrophes naturelles ?
Alors, sur le nombre, en fait, l'impact de l'homme, donc l'homme émet des gaz à effet de serre, le gaz carbonique, le méthane, tous les composés carbonés. Et ces gaz à effet de serre entraînent un réchauffement global de la planète. Et ce réchauffement global de la planète entraîne une modification du cycle de l'eau sur la planète. Et donc, ça conduit à ce que l'on appelle des événements extrêmes, donc des précipitations ou des sécheresses extrêmes. Donc l'homme est responsable de l'augmentation du nombre de ces événements extrêmes et également de leur intensité. On a eu ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez eu à Bourg-en-Bresse, mais des événements de grêle qui sont assez surprenants.
Que peut-on faire pour lutter contre le changement climatique ?
Eh bien, il faut s'interroger sur la consommation que l'on a du carbone. Donc la solution, elle est auprès de tout le monde, des citoyens comme des communes, comme des départements, comme des régions, comme de l'État, comme de l'Europe. Donc tout le monde est impliqué. Hein, il ne faut pas attendre des choses des autres. Donc chacun à son niveau, on peut faire quelque chose. Et on n'est pas forcé d'attendre que le voisin ou que la personne qui soit en direction ou en réflexion fasse quelque chose. Donc chacun peut faire quelque chose. Donc déjà, s'interroger sur la façon dont on consomme de l'énergie, comment on se déplace. Est-ce qu'il faut prendre la voiture tout le temps? Est-ce qu'on peut utiliser des modes de transport alternatifs comme les transports en commun, comme le vélo, comme le train, si on veut aller plus loin? S'interroger sur la bonne, si c'est vraiment nécessaire de prendre l'avion, parce que l'avion a un gros impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Pour partir en vacances, il y a peut-être des lieux de vacances qui sont très chouettes à voir, pas très loin de chez soi ou en prenant le train. Voilà, donc il y a toute cette réflexion qu'il faut avoir sur ces mobilités. Et puis ensuite, des petites actions, quoi, des actions également sur sa consommation de vêtements, sa consommation alimentaire, sa consommation en téléphone portable. Est-ce qu'il faut renouveler son téléphone portable tous les ans, tous les deux ans ou tous les dix ans? Voilà. Donc sur sa consommation au sens général, quoi. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle la sobriété. Voilà, il faut réfléchir à où est-ce qu'on peut être sobre. Alors, on ne peut pas être sobre partout, et c'est normal. Il ne faut pas non plus se rendre malade. Hein. Mais il y a certainement des endroits où chacun d'entre nous peut réduire quelque chose. Et là, et ben ça, c'est chacun qui a sa réponse.
Est-ce que, parfois, pour faire des recherches, il vous faut certains gros engins pour essayer de calculer la...
Les grosses machines?
Oui.
Oui, bien sûr, on a besoin de gros ordinateurs. Et donc, en France, il y a des... En fait, la France a deux gros ordinateurs qui est utilisé par toute la communauté scientifique, mais c'est vraiment des très, très gros ordinateurs. Après, il y a des ordinateurs à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle du monde. Donc, c'est des choses qu'on essaye de mutualiser. Oui. Donc, il y a besoin de gros, 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 gros ordinateurs.
Merci, Sandrine Anquetin, pour ces explications.
Il est temps de mettre un point final à notre interview.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Les catastrophes naturelles. Par les enfants de l'école Carnot.
Merci à Sandrine Anquetin d'avoir répondu à nos questions.
Nous avons également réalisé un micro-trottoir. On écoute ça tout de suite.
Si je vous dis la catastrophe naturelle, vous pensez à quoi?
Éruption, volcanisme, séisme, problème d'écologie.
Le réchauffement de la planète, le manque d'eau sur Terre et les forêts qui vont partir, ainsi que les animaux.
Les tempêtes,
un tremblement de terre,
tsunami,
inondation.
Je pense au réchauffement climatique.
Selon vous, quelles sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes dans l'Ain?
Les inondations en France, c'est surtout ce qui nous touche.
Bah, c'est peut-être... Les orages en montagne.
Le manque d'eau.
La grêle.
Comment peut-on prévenir les différentes catastrophes naturelles?
Il y a les grands centres d'études sur la sismographie qui peuvent prévenir. Et puis il faudrait qu'on se mette à étudier sérieusement les problèmes d'écologie et notre problème de surconsommation d'énergie.
On va faire quelque chose contre le réchauffement climatique, parce que je pense que le réchauffement climatique entraîne les catastrophes naturelles.
Avec la météo.
Alors, les inondations peut-être en laissant un peu plus de végétation, en mettant un peu moins de béton, de goudron, de choses comme ça.
Peut-être changer de planète, mais on en trouvera peut-être d'autres sur les planètes à venir.
Pourquoi les activités de l'homme augmentent le risque de catastrophes naturelles?
Je pense parce qu'on pollue beaucoup, on consomme beaucoup avec le temps, et puis dû à ça, on n'a plus trop de ressources, on est en train d'épuiser les ressources naturelles, je pense que c'est un gros problème quand même.
Parce que l'homme pollue, et donc du coup ça fait changer le climat, et donc du coup ça a des répercussions sur la météo.
Parce qu'ils construisent trop n'importe où.
Ils pompent trop d'eau.
Ils ne respectent peut-être pas assez la nature.
La surpopulation, on est plus de 10 milliards d'êtres humains sur la planète. Et plus ça va aller, plus ça va augmenter, plus l'homme va vouloir encore demander.
Parce que la nature est bien faite et que la nature avait fait certaines choses pour justement protéger. Et comme l'homme veut la productivité, il détruit certaines choses pour pouvoir... Voilà, donc c'est plus pour l'appât du gain, je dirais, que ça provoque.
Mais parce que l'homme, il a cassé le cycle de l'écologie naturelle et il cherche à surproduire. Et donc du coup, ça détruit le système naturel qui est autour de nous.
Peut-être parce qu'il va trop vite et qu'il réfléchit pas assez.
Les catastrophes naturelles. Par les enfants de l'école Carnot.
Merci à tous les burgiens qui ont accepté de répondre à nos questions.
Mais Jocelyn, quelles sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes dans l'Ain ?
Les personnes ont-elles bien répondu ?
Plutôt oui, cela dépend des années.
Dans l'Ain, il peut y avoir des inondations.
Elles peuvent se produire en cas de nombreuses pluies sur une courte durée.
Il y a aussi des sécheresses.
Car certaines années, les températures sont plus élevées.
C'est parfois combiné à des pluies moins fréquentes ou à un enneigement moins grand en hiver.
Cela provoque un manque d'eau qui finit par avoir des conséquences, par exemple pour l'agriculture.
Vous avez sûrement déjà remarqué qu'en été, il pouvait y avoir des restrictions pour économiser l'eau,
comme l'interdiction de remplir la piscine.
Merci pour toutes ces explications.
Notre émission spéciale touche à sa fin.
On espère que vous avez appris des choses.
Il est temps de se dire au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Radio B.
Je m'appelle Jocelyn.
Et moi, Erwan.
Je suis Victor.
Je m'appelle Lola.
Je suis Rachel.
Je m'appelle Mal.
Je m'appelle Laurette.
Radio B.
Catastrophe naturelle. Par les enfants de l'école Carnot.